Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite. France Inter, plus de monstres sacrés du cinéma. Dernier épisode ce soir de la série Écoutez le cinéma, réalisée par France Inter. Ce sont des masterclass organisées et enregistrées pendant le Festival de Cannes. Ce soir, Sylvester Stallone. Mai 2019, il est à Cannes pour présenter les premières images du prochain Rambo. La salle Bazin du Palais des Festivals est pleine à craquer et le public est debout pour ovationner l'acteur qui salue visiblement très ému. C'est face à Didier Allouche, le journaliste cinéma de Canal+, que Stallone va évoquer son parcours. Il est question de résilience, de voix trop grave, de rapport au corps, d'inspiration et même de tortue. Et bien évidemment, du phénomène Rocky. Alors, sur le papier, c'était un échec garanti. Un acteur inconnu, un sujet peu populaire, le tournage un vrai bricolage, sans parler de la difficulté pour sortir le film. On a dû se battre. Les producteurs voulaient tout juste le sortir dans les drive-in. Ils voulaient tout le monde, sauf moi. Ils voulaient Burt Reynolds, James Caan, Robert Redford. Ils auraient pris un kangourou plutôt que moi. Plus de Stallone serait musclé sur France Inter.
Mesdames et messieurs, Sylvester Stallone. Ça suffit, gardez-en pour ce soir. Pour mener cette conversation, this conversation and discussion with Sly, le journaliste qui travaille également dans l'équipe du Festival de Cannes, je ne vous demande pas de lui faire un aussi gros accueil pour Sylvester Stallone, mais voici Didier Allouche. So, gentlemen.
Yo.
How are you, Monsieur Stallone?
Comment allez-vous, Monsieur Stallone?
I am absolutely sensational. Thank you very much.
Je trouve que c'est sensationnel cet accueil. Je suis très heureux d'être ici. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. J'adore l'énergie que vous dégagez. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité d'avoir une carrière aussi longue. J'ai regardé tous vos films et j'ai essayé de déceler un thème qui sert de fil conducteur entre toute votre filmographie. Il y a un thème qui m'a frappé, c'est ce qu'on retrouve dans tous vos films, c'est la résilience. C'est vrai pour Rambo, pour Rocky, mais dans tous vos films, ce qui compte, c'est la résilience. Pourquoi ? Êtes-vous une personne résiliente ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui concerne la nature de l'homme, de l'être humain, l'homme, la femme, et qui concerne la résilience. Je suis très heureux d'avoir pu présenter ce thème qui consiste à réagir, à se battre, à ne pas accepter la défaite. Alors, si vous avez trouvé que c'est un thème qui sert de fil conducteur à tous mes films, c'est intéressant. Mais vous présentez vos histoires d'une façon très personnelle. Qu'y a-t-il de vous dans ces personnages résilients? Personnellement, je ne me considère pas comme différent de quiconque. Être humain, ça veut dire trouver le juste équilibre entre toutes vos faiblesses et avancer comme cela. C'est ça la vie. Chaque jour, Rambo traite de l'aspect sombre de la nature humaine que l'on connaît, que beaucoup de gens connaissent. Et Rocky, c'est différent. C'est l'optimiste. Il a conscience qu'il n'est pas quelqu'un de particulier, mais il essaie de l'être. Donc, il y a l'optimisme d'un côté, le pessimisme de l'autre. Parlons du début de votre carrière. Avant Rocky, les choses n'ont pas été faciles pour vous. Vous avez eu beaucoup de problèmes pour y arriver. Avez-vous eu des doutes lorsque vous étiez jeune? Avez-vous pensé que vous n'alliez pas réussir en tant qu'acteur? Non, je ne pensais pas. Je croyais être optimiste, mais je me suis rendu compte que j'ai des problèmes physiques. Ça a été difficile pour moi de parler, parfois, parce que j'ai eu un accident au moment de ma naissance. Donc, j'ai eu un problème à la bouche. Et donc, ça me fait parler avec une voix très, très grave. Donc, lorsque j'essayais de trouver du travail dans des publicités, les réalisateurs de ces publicités me disaient, mais qu'est-ce que vous dites? Vous parlez quelle langue? On ne comprend rien. Je savais que c'était, je ne parlais pas très bien, mais Arnold Schwarzenegger m'a dit, mais t'as un accent en anglais. Moi, j'ai un accent.
What?
Arnold et moi, nous devrions ouvrir une école pour donner des cours de diction. Ce serait parfait.
Rocky now. Donc,
Rocky, il y a beaucoup de légendes, d'histoires sur la saga Rocky, sur le succès du premier film. Mais on a tendance à oublier à quel point le premier de la série était un film d'époque qui a marqué son époque avec les films d'auteurs des années 70 aux États-Unis. On cite beaucoup de films, mais ce n'est pas juste qu'on ne cite pas suffisamment Rocky. Est-ce que Rocky est un produit de son époque en termes de cinéma et sur le plan social aussi? Rocky, c'est un phénomène des temps modernes. Sur le papier, c'était un échec garanti. Un acteur inconnu, un sujet qui n'est pas très populaire au cinéma, mais vous avez raison, quelque chose a eu lieu. Le film a été fait en 25 jours, c'était très rapide, il a coûté moins d'un million de dollars, mais ce film a été puisé dans l'idée qu'il y a là un homme seul, solitaire, jusqu'à ce qu'il rencontre une femme. Et là, il renaît. Et ce n'est pas un film banal. Ce n'est pas un film forcément grand public pour gagner de l'argent. Ça aurait pu être un boulanger, cet homme-là. Ça pourrait être un réparateur de bicyclettes. La vie, en fait, ça peut être un rêve, mais c'est aussi une lutte. Il y a tellement de films qui ont été faits sur la boxe. Eh bien, à l'époque, aux États-Unis, on était en 1976. C'était le deuxième siècle des États-Unis, le bicentenaire. Et donc, c'était très politisé à l'époque. Tout le monde parlait de politique, les chauffeurs de taxi, etc. Et moi, j'étais très naïf et j'ai fait Rocky, film optimiste. Et à l'époque, les gens étaient prêts pour le changement. Donc, j'ai eu de la chance. Tout le monde dans le film travaillait gratuitement, presque. Il n'y avait même pas de pièces pour se changer. On changeait nos vêtements à l'arrière d'une voiture. C'était un projet comme cela. Et le souvenir que j'en ai, c'est que quelque chose d'extraordinaire a pu sortir de rien. On ne sait jamais, on ne savait pas ce qui allait se passer à l'époque. On avait un caméraman qui n'avait jamais tourné dans un film avant. Tout était voué à l'échec. Tout devait être raté dans ce film. Tout. Et c'est pour ça que je disais aux gens, on ne sait jamais où l'art peut aller, peut nous mener, où le succès peut nous mener, parce que ce film-là était garanti, était voué à l'échec, à 100%, aucune chance de réussite. Et on nous a dit, bon, on va même pas le sortir, ce film. Il a fallu se battre et se battre. Peut-être qu'on va le mettre dans un cinéma de drive-in où on va voir les films en voiture.
Et
ils voulaient pas que je sois dans ce film. Ils voulaient tout le monde sauf moi. Ils voulaient Burt Reynolds, Jimmy Caan, Robert Redford. Ils auraient pris un kangourou à ma place. N'importe qui aurait fait l'affaire. Et ils étaient fâchés à la production. Ils me disaient, mais c'est qui ce Sylvester Stallone? Il a été dans un film intitulé The Lord of Flatbush.
When Rocky won the Oscar for Best Movie, you went on stage.
Lorsque Rocky a reçu l'Oscar du meilleur film, vous êtes allé sur scène et vous vous êtes dit « Je vous aime au nom de tous les Rockies du monde ». C'était en 1976. Pensez-vous qu'il y a encore beaucoup de Rockies dans le monde d'aujourd'hui et quel serait votre message à leur égard? Les Rockies et les Rockettes et les Roxanes. La population continue à augmenter, la vie devient de plus en plus difficile et complexe.
When I tell you, I was a nobody.
À un certain moment, moi, j'étais personne. J'étais un rien du tout. L'année avant Rocky, je travaillais dans un parking. Je garais des voitures. Et c'est extraordinaire de voir avec quelle rapidité votre vie peut changer. J'avais une centaine d'idées, de mauvaises idées, et j'en ai eu une bonne. Il suffit d'une bonne idée, et les échecs vous rendent plus intelligent. Parfois, le succès vous rend plus stupide, parce que vous pensez que vous n'avez plus rien à apprendre. Les échecs, ça vous rend plus intelligent. On se rend compte maintenant, je vais faire comme ci, comme ça, j'ai appris ceci, cela. Bien sûr, réaliser cela, faire un film, c'est un style de vie. Réaliser, c'est une réalité, tout le reste est irréel. On rentre chez soi, on se dit, mais je suis où là? Dans notre esprit, on n'est plus là. Quand ça marche, c'est fantastique. Quand ça marche, oh, bon, ben, on l'accepte. Donc, quand j'ai écrit Rocky, c'est un peu présomptueux de ma part de le dire, je l'ai écrit comme une série en trois parties. À l'époque, je n'avais pas de travail et je suis arrivé voir des gens, j'ai dit voilà vos trois prochains films. Même chose avec Rambo. Personne ne voulait de Rambo. J'étais le dernier choix. Tout le monde trouvait des excuses pour ne pas prendre Rambo. Le personnage était une sorte de sauvage. Il tuait tout le monde, hommes, femmes, enfants. C'était une sorte de monstre. Et si c'était pas un monstre, si c'était un homme qui a le cœur brisé, qui revient en Amérique et qui est rejeté, un petit peu comme James Dean, par exemple. Ça, c'est une bonne histoire. Logiquement, Rambo aurait dû mourir dès le deuxième film. Mais non, essayons d'aller encore un peu plus loin. Logiquement, il devrait mourir. Mais si on laisse la logique de côté, où peut-il aller? Et ça donne une histoire de plus.
Touch me, take me in your arms, shelter me from harm. Let me love you for a million years or more. I never felt this way before your kiss. You take my heart away.
Love me from your heart. Let us never part. Bring me all the dreams you thought would never be. We'll make them all reality, just you and me. You take my heart away. I will never.
away.
From your heart, let us never part. Bring me all the dreams you thought would never be. We'll make them all reality, just you and me. You take my heart away.
Take My Heart Away, c'est un titre présent sur la BO de Rocky 1. Tout de suite, on retrouve bien sûr Sylvester Stallone dans sa masterclass sur France Inter.
Le premier Rocky, succès. Ensuite, ces films sont assez, sont plutôt intelligents. Il y a, par exemple, Les Faucons de la Nuit. Il y a, vous avez travaillé avec John Huston. À nous la victoire. Alors, vos choix. Et comment avez-vous décidé de vos choix? Et comment avez-vous fait face à votre succès à l'époque? Oui, après Rocky, après le succès. J'ai tout de suite su que j'étais assez limité comme acteur pour des raisons physiques.
You know, are they taught that to be as versatile as possible? And that's a nice theory, but that's
dans les écoles d'acteurs, on vous enseigne à être versatile, mais c'est de la théorie. En réalité, il y a des choses qu'on fait bien. Quelqu'un d'autre peut faire quelque chose d'autre, mais il ne fera pas ce que moi je peux faire. C'est ce qui fait que c'est très intéressant. Dustin Hoffman, s'il jouait Rambo et moi Tootsie, je ne sais pas si ça marcherait. J'ai envie de voir ça. Non, non, vous n'avez pas envie de voir ça. J'essaie de ne pas trop sortir de ce que je sais faire, parce que ces autres choses, d'autres acteurs peuvent le faire mieux que moi. La vérité, c'est que j'aime bien voir les choses avec un certain recul. Par exemple, je vois ce qu'il y a sur la table ici, les bouteilles. Je me dis, tiens, j'aimerais bien peindre cela, et si je mettais telle bouteille à tel endroit, etc. Rocky a réussi. Meilleur film, Oscar, meilleur réalisateur. J'ai écrit Rocky 2 et le réalisateur l'a détesté, ce projet. Ça marchera jamais, c'est terrible. On voudrait que Rocky devienne corrompu.
Anyway, no, I don't think so.
Non, that's moi, je n'étais pas d'accord. Ce n'était pas la voie que Rocky devait suivre. Donc, je n'ai pas envie de faire ce film. Et le réalisateur a laissé tomber. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ne le ferais pas moi-même, la réalisation. Moi, j'adore la réalisation. J'ai peut-être trop réalisé, je me suis épuisé.
Directing Rocky, the last Rocky
on a
Balboa, which
réalisé
rough.
Le dernier Rocky Rambo, Balboa, puis il y a eu Rambo, and ça a été difficile, which, ensuite Expendables.
So there was a lot of,
donc, il y a eu beaucoup à faire, et je n'avais jamais le temps de rentrer chez moi, de passer du temps chez moi. Il a fallu du temps après pour récupérer. Et maintenant, je serai prêt à repartir. Et votre inspiration en tant que réalisateur, acteur, qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui m'a inspiré en général? Oui, en général. Il n'y a pas de manque d'inspiration autour de nous. Il suffit d'être là, d'écouter une conversation, des gens qui parlent comme ça, à droite, à gauche. Tout le monde a des problèmes. C'est le drame humain et c'est inépuisable. Y a-t-il des acteurs que vous prenez en exemple? Acteurs d'aujourd'hui, acteurs du passé. Moi, si je pense à des acteurs hommes, le premier acteur qui a vraiment attiré mon attention, c'est Kirk Douglas. Et celui qui m'a vraiment plu, c'est un des pires acteurs au monde, mais qui a un corps extraordinaire, c'est l'acteur qui a joué Hercule. Et en voyant cet Hercule, je me suis dit, oh là, ça c'est quelqu'un, ça c'est mon avenir. J'avais peut-être 12 ans et demi, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais suivre cette voie, et j'ai commencé à travailler beaucoup pour que mon corps se développe, et ce, parce que j'avais vu un seul film. J'ai vu les films que vous avez réalisés et votre style de réalisateur devient de plus en plus précis. Vos personnages sont de mieux en mieux définis. Alors pour ce qui est des scènes de boxe, il y a peut-être des gens qui vont hurler dans la salle, mais pour moi, il y a deux façons de réaliser des scènes de boxe. Il y a Raging Bull et il y a Rocky IV. Quelle a été votre approche de ces scènes? Je ne parle pas sur le plan technique, mais sur le plan philosophique. Raging Bull et Rocky, ce sont deux univers différents. Raging Bull est une biographie fantastique sur l'homme. Rocky 4 parle d'une bataille. Il faut trouver un super être humain comme opposant, quelqu'un qui a une telle stature qu'il puisse réussir. Je pensais au départ trouver quelques acteurs à la stature de géant. Et puis, il y a Dolph Lundgren qui est venu et je l'ai tout de suite détesté. Je me suis dit, mais pourquoi je le déteste autant? En réalité, c'est parce qu'il est parfait. Il est parfait.
They would create as an athlete somebody who is
perfect. Ils allaient pouvoir trouver quelqu'un de parfait, indestructible, des épaules, des bras, etc., de géants. Enfin, il avait tout ce qu'il fallait.
And Rocky is all flawed. He's shorter.
Et Rocky, lui, il a plein de défauts. Il est petit, il est moins costaud, etc. Donc, il fallait créer ce match, cette lutte. Et il a fallu des mois et des mois et des mois de répétition. Parce que ce match que vous avez vu, il a été tourné en deux mois.
This took 2 days because that's how much rehearsal and how many days we
et
we
il a fallu beaucoup de répétitions.
So, when I look at that film, I'm
et quand je vois ce film, je me dis, mais j'étais complètement dingue. C'était brutal. Moi, j'ai passé 4 jours à l'hôpital. Il m'a vraiment tapé dessus. Il m'a donné un coup de poing au cœur. Les médecins ont pensé que j'avais été dans un accident de voiture.
I said, why don't we, right now, just do it.
Je lui ai dit, vas-y, fonce, je veux quelque chose de réel, vas-y, essaie de me mettre KO. Je sais ce que tu vas faire, mais vas-y, déchaîne-toi. Et ça, ça a été vraiment une chose idiote de ma part à dire. Et ensuite, je me trouvais dans un avion à basse altitude vers un hôpital pour que je sois mis pendant 4 jours et demi dans une unité de soins intensifs. Sur le parler critique, j'ai été démoli, mais financièrement, ça a été l'épisode le plus couronné de succès.
Enfin, quand les gens découvrent Rambo, First Blood, au tout début, ça a frappé le peuple américain. Et ça, c'est une litote. Je ne sais pas quelles étaient vos idées politiques à l'époque, mais tout le monde adorait Rambo. Tout le monde adorait ce personnage. C'était l'époque de Vietnam. Il y avait une grosse controverse aux États-Unis. Que fallait-il faire avec les vétérans qui rentraient au pays? En fait, c'était beaucoup plus qu'un héros. En fait, pour être franc, je suis presque athée sur le plan politique. Je n'avais même pas voté auparavant. Donc, ça n'avait rien à voir avec la politique. Je me suis dit, c'est un magnifique récit. C'est une histoire très intéressante sur l'aliénation. Et puis, j'ai commencé à faire un peu de recherche et mener mon enquête. Et puis, je me suis dit, il y a ces vétérans de la guerre qui rentrent. Ils ont vraiment subi des dégâts psychologiques énormes. Il y en avait qui se suicidaient. Dans le livre original, Rambo est dans un tel état qu'il est devenu un vrai sauvage. C'est une machine à tuer. Il est devenu une sorte de Frankenstein. Et je me suis dit, c'est pas ça le message que je veux donner. Si je fais ce film, il faut que je me sente responsable de milliers d'hommes qui sont prêts à se suicider. Il y avait 25 000 suicides parmi les vétérans par mois à l'époque. Donc, je me suis dit, je vais changer l'image, je vais changer le personnage un petit peu. Donc, tout à la fin, il exprime sa solitude, ses problèmes, et le public peut s'identifier au personnage, enfin. Mais, à aucun moment, ce n'était censé être une déclaration politique. En fait, il est devenu un personnage emblématique, mais je ne me suis jamais dit que dans un film, je voulais en fait faire une déclaration sur telle ou telle situation ou sur tel ou tel groupe versus un autre. Je ne suis pas un homme politique, je n'ai jamais été, ce n'est pas quelque chose que je souhaite devenir. Moi, je sais simplement raconter des histoires, des récits. Rambo, regardez, Reagan, il a dit, j'ai vu Rambo et il est républicain. Franchement, c'est la vraie vérité. Donc peut-être qu'il s'est transformé en républicain, je ne sais pas. Dans tout chaque film Rambo, il ne rentre jamais à la maison. Il va en Afghanistan, il va par-ci, il va par-là. Mais à un moment donné, il rentre à la maison. Mais dans un sens, il n'y arrive jamais, si vous voyez ce que je veux dire. Il est là sans l'être. Et en fait, tout le récit tourne autour de cette idée. Il se rend compte, dès qu'il franchit la porte, il se rend compte qu'il ne maîtrise plus la situation. C'est le monde qui maîtrise les gens. Parlons de votre corps. Quoi? Ce qu'il en reste. Pour le troisième Rocky et le deuxième Rambo, vous avez travaillé votre corps. Vous êtes peintre, vous êtes artiste. Est-ce que vous avez le sentiment que vous faisiez de la muscu? En fait, à un moment donné, vous aviez 2,8% de graisse seulement. Est-ce que vous avez travaillé votre corps un petit peu comme un artiste travaille une sculpture? Oui, absolument. J'avais le sentiment que si on commence à transformer son corps, et ça je l'ai trouvé, en fait, quand on commence à changer son corps, on finit par réagir différemment. Ça change votre personnalité. À un moment donné, on se sent en hyper bonne forme et on a envie presque de se promener tout nu pour montrer son beau corps. On devient très narcissique. Pour le dernier Rambo, normalement, je pèse 180 livres et je pesais peut-être 250. Je me suis dit que Rambo était devenu une véritable bête. Il n'était plus homme, il était devenu bête. Animal sauvage. Il était comme une chose qui vivait. Et quand il voit la fille, il retrouve une certaine humanité, mais sinon il est devenu comme une bête sauvage.
Vous écoutez Sylvester Stallone dans sa masterclass au Festival de Cannes, c'est sur France Inter, France Inter Plus.
Quand il dit « fuck the world », il s'en fiche, il s'en fout. Il travaille avec des serpents, des choses très dangereuses qui font peur. Franchement, j'avais vraiment pris trop de poids. J'étais devenu énorme. Mais c'est vrai, ça c'était autre chose encore. Il fallait justement que je change le personnage. Et on pensait que les gens d'action n'arrivaient pas vraiment à être de bons acteurs. Et finalement, j'ai prouvé le contraire. Je me suis dit, je veux avancer dans ma carrière. Je veux évoluer. J'ai appris à boxer, je n'étais pas boxeur, c'est juste un jeu d'acteur. Je me suis dit, bon, maintenant j'ai envie de m'amuser. Je suis allé jusqu'au bout avec ces films d'action très physiques. Je vais travailler avec James Mangold et puis je vais faire vraiment autre chose. J'étais avec plein d'acteurs, d'actrices formidables. Pour moi, c'était vraiment un défi, c'était un challenge. C'était comme une sorte de concours. Je voulais me tester. Je voulais voir si j'allais y arriver. Je voulais voir me mesurer par rapport à ces autres acteurs. Est-ce que j'étais leur égal? Je me suis dit, je mets de côté l'action. Je vais voir si je peux jouer toutes ces émotions à l'écran. Je pense que nos vies sont une question de mathématiques. Jusqu'à l'âge de 40 ans, 45 ans, tout va bien. Tout est magnifique, la carrière bat son plein. On est magnifique, les enfants marchent bien à l'école. Et puis dans la deuxième partie de sa vie, les enfants quittent la maison, il y a une fuite d'eau à la maison, on perd ceci ou cela, les amis meurent, on se dit, ma mince. Donc c'est une question de soustraction, pas d'addition. Et comment gérer cette soustraction? C'est ça qui est difficile. Et je me suis dit, ça c'est l'étoffe d'un film. Et Rocky, il va parler de la perte. Il va justement sortir et parler de ce non-dit. Donc, il remplace une ancienne douleur par une nouvelle. Ça paraît simpliste, mais il a besoin de se racheter. Et on m'a répondu, mais personne ne veut voir ce genre de truc. Et j'ai dit, mais oui, mais si, c'est vraiment le cas. Et en fait, c'est le point d'orgue de ma vie. Parce que c'était tellement difficile. Ça a été plus difficile à réaliser que Rocky 1. Une différence énorme. Et franchement, le résultat est magnifique. À la fin, je voulais que tout le monde monte ses marches. Je voulais que tout le monde sente qu'ils avaient réussi quelque chose. Il y avait tellement de personnages, tellement de personnes différentes. Et à ce moment-là, j'étais très tenté de prendre ma retraite, de ne plus rien faire. Et puis, des gens m'ont dit, bon, tu veux faire encore Rambo? Et bien, ça a marché hyper bien. Donc, me voici encore. Quand vous avez été nominé pour Rocky de nouveau, est-ce que vous avez rappelé toutes ces personnes qui vous ont dit, ta carrière est finie? Non, maintenant, je suis au chômage. Eux, ils sont au chômage, mais pas moi. Les Expendables, de nouveau. La trilogie me fascine. Elle parle de l'obsolescence du concept d'un héros d'action. Comment écrire ce genre de film? Comment ça s'est fait? Comment est-ce que je l'ai écrit?
Eh ben,
vous allez voir les chanteurs d'il y a 30 ans et vous avez l'impression qu'ils ne sont franchement pas très bons. À l'époque, c'était des stars, mais maintenant, ils ne le sont plus. Ils sont mal habillés. Bah, les choses ont changé. Donc, j'ai invité ma femme à aller au bal de Hollywood et je suis allé voir les Righteous Brothers, mais il y en a un qui est mort, donc il ne reste qu'un seul frère. Et puis, il y a les Young Rascals qui sont devenus de vieux Rascals. Et puis, il y avait d'autres groupes. Et il ne restait qu'un parmi les trois. Et ma femme a dit, mais c'est vraiment horrible, c'est lamentable, c'est n'importe quoi. Mais je me suis dit, d'accord, mais pourquoi est-ce que la salle est pleine alors? Je ne peux pas prendre ma retraite. J'ai eu peut-être une trentaine d'interventions chirurgicales. Je suis comme un homme bionique. J'ai été opéré de l'épaule et du rachis. En fait, il faudrait me mettre un peu d'huile le matin pour que je puisse me lever et marcher. Mais ça fait partie de la chose. Il faut l'accepter. Il faut se dire, oui, voilà, ce sont mes blessures de guerre. Il faut faire avec. Je me sens bien, même si, bon, j'ai plein de problèmes. Bon, c'est sûr qu'on vieillit. Il faut juste l'accepter. Les gens, quand ils me le disent, oui, peut-être je ne suis plus le plus fort ou le plus rapide. Et c'est ça, c'est vrai aussi de Rambo. Je ne suis plus l'homme que j'étais il y a 30 ans avec toutes les cascades qu'il faisait. Mais bon, j'ai ma tête, j'ai beaucoup de connaissances, j'ai ma stratégie. C'est comme les boxeurs plus expérimentés. Un combattant de 35 ans, eh ben, il a acquis une belle expérience. Il est peut-être en fin de carrière, mais il en sait des choses. Donc, bon, pourquoi choisir quelqu'un de plus jeune? Parce que celui de 35 ans, il sait plein de choses, il a une belle prestance. Même chose, quand vous êtes plus âgé, vous êtes un homme d'action, il ne faut pas faire semblant d'être plus jeune. Sinon, le public n'est pas dupe. Donc, par rapport à Arnold et d'autres films, est-ce que vous aimez faire de nouvelles choses à partir d'idées anciennes? Il m'a tout volé et il a volé toutes ses idées. Il les a prises chez moi et je le lui rappelle de temps en temps. Non, sérieusement, on s'entend super bien. On se déteste, mais on s'aime bien. Et ça, c'est une bonne chose. On a tous besoin d'un bon concurrent. Ça stimule. Et si je n'en avais pas, je le créerai. Je choisirai quelqu'un. J'ai besoin de détester quelqu'un. J'en ai besoin. Ça me stimule. Donc c'est vrai, c'était un peu notre relation parce que lui, il est très compétitif. Plusieurs fois, j'ai dû me dire, bon, ben, c'est pas grave, peu importe. On était vraiment l'un contre l'autre. Maintenant, on est devenus des amis. On n'est plus des...
I am.
Des ennemis. Franchement, ce n'est pas une plaisanterie. On est devenus amis.
Non.
Ce soir, on va voir les premières images de Rambo The Last Blood. Est-ce que vous vouliez nous parler de ce film? Il est rentré à la maison à la fin du dernier film. Il rentre à la maison. On voit le nom Rambo sur la boîte aux lettres. Et le nouveau film part de là. Il y a un grand orage, vraiment impressionnant, et j'essaie de sauver des gens. Tout d'un coup, il y a une inondation subite, il faut aider les gens et à évacuer la zone. Et puis on voit Rambo à cheval, et il essaie de sauver les gens parce que lui, il a cette culpabilité en tant que survivant. Il a perdu tant d'amis au Vietnam alors que lui, il a survécu. Il souffre donc du stress post-traumatique et donc il essaie de sauver les gens. C'est dur, c'est compliqué. Il rentre à la maison, il a ce magnifique ranch, mais il vit sous terre. Il y a des kilomètres de tunnels et c'est comme ça qu'il essaie de gérer son dilemme. Il vit littéralement sous terre. Il a ce ranch, mais il était dans un tunnel au Vietnam et il trouve une certaine sécurité, une certaine tranquillité dans ces tunnels. C'est puissant. Et il a une famille adoptive. Il y a donc...
has a granddaughter, the mother has died, so
quelqu'un qui garde la maison, qui a une petite fille. Rambo, c'est un petit peu comme le père. Il remplace l'image du père. Et cette jeune fille, ensuite, trouve son vrai père et elle veut le retrouver au Mexique. Je lui dis, non, mais s'il te plaît, ne le fais pas. Et malgré ça, elle le fait quand même. Il arrive des choses épouvantables. Et c'est à ce moment-là qu'il lutte contre son stress post-traumatique. Il sait que s'il quitte sa propriété, il va perdre la maîtrise de la situation. Il en a trop peur. Il a peur d'être contrôlé par les événements extérieurs. Et c'est ce qui se passe. Il y a des choses terribles qui lui arrivent. Bon, c'est assez lourd. Non, on l'aime, on l'adore, ce film. Et il va y avoir vraiment des événements incroyables dans ce film.
It's gonna be in the fall.
A lot of people are getting hurt in this film, boy.
Bah, beaucoup de gens qui sont blessés dans ce film.
We're gonna open the floor a few questions.
Donc on va laisser la salle poser des questions dans quelques minutes.
More than 40 years long
Monsieur
career
Stallone,
now.
Votre carrière s'étend désormais sur plus de 40 ans. Vous avez joué dans 60 villes, si je ne me trompe. Vous en avez réalisé 8. Est-ce que vous posez la question de ce que vous avez laissé?
Legacy. It's not like I've never thought like what's going to be the legacy.
Je me suis jamais demandé ce qu'allait être l'héritage que je laisserai derrière moi.
Legacy is determined on what the audience.
L'héritage, en fait, c'est au public de le décider. Ça dépend de ce que le public pense de vous. On ne peut pas être prétentieux et planifier l'héritage qu'on laissera derrière soi.
I never thought of it.
Ouais, Didier a évoqué tout à l'heure le film de James Van Gogh, Copland, où vous livrez une performance inhabituelle.
Yeah.
Est-ce que vous ne pensez pas que vos rôles d'action héros pendant des années vous ont empêché d'avoir des propositions de ce style de réalisateurs comme Spielberg, Scorsese ou Coppola, par exemple?
Non, 100%.
Tout à fait. Ça ne fait aucun doute. On est identifié à un genre. C'est pour ça que j'ai fait Copland. Pour montrer que je pouvais faire les deux.
À
un certain stade, je pouvais faire les deux, mais vous avez tout à fait raison. Je suis identifié à un certain type de rôle, et je ne sais pas si je pourrais jouer un avocat. Mais c'est pas grave, je continue à m'améliorer avec ce que je fais, je les laisse faire ce qu'ils font, c'est très bien. Nous n'avons pas de temps pour d'autres questions, donc au nom de tout le public, je vous remercie beaucoup, Sly.
Merci à vous tous, je voudrais qu'on remercie très très fort Sly Sylvester Stallone.
C'était le NRV France Inter plus de monstres du cinéma, dernier épisode, la masterclass de Sylvester Stallone. Lundi, on passe le mur, direction Berlin pour une collection France Inter plus de Monsieur X. À la réalisation cette semaine, Stéphane Combe, préparation Virginie Rosic, à la technique Jérémy Guyon. Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir et le bon week-end. Alors à lundi.